Chapitre 2. Notre héroïne va être lancée dans un monde qui lui est inconnu. Elle a 18 ans, son caractère est doux, son cœur bienveillant, ses manières obligeantes et franches. Elle n'a plus cet embarras ordinaire aux jeunes personnes élevées à la campagne, cette niaiserie qu'elle conserve presque toujours a disparu. Catherine peut plaire. Son ensemble est agréable. Son esprit a acquis de la justesse et son humeur de l'amabilité. Aux approches du départ, sans doute que les anxiétés maternelles vont agiter Miss Rismorland. 1000 pressentiments funestes vont la tourmenter. Cette cruelle séparation va oppresser son cœur sensible. Pendant les derniers jours, un déluge de larmes inondera ses yeux. Sans doute qu'elle prodiguera les avis pour prémunir sa fille chérie contre les séductions qui ne manqueront pas de l'environner, et aussi contre les pièges qui, de toutes parts, vont être tendus à son innocence. Elle la préviendra contre cette foule de jeunes seigneurs, dont la principale occupation est d'inspirer de l'amour aux jeunes beautés, de les enlever, de fuir avec elles en des pays lointains. Que ne devra-t-elle pas craindre enfin pour sa tendre fille? Que ne devra-t-elle pas lui dire, enfermée avec elle dans le cabinet le plus isolé de son appartement? Mais la bonne Miss Rismorland n'a point de cabinet isolé. Elle n'a jamais connu ni lord ni baronnette. Jamais elle n'a entendu parler de leur mœurs. Elle n'a point lu de roman et n'a pas la plus légère notion des dangers qu'une jeune personne peut courir dans le monde. Sa prudence ne lui suggéra donc point d'autre recommandation à faire à sa fille que celle de s'envelopper dans son châle quand elle sortirait le matin et le soir afin de se préserver des rhumes et des maux de gorge, d'inscrire soigneusement sa dépense. Elle lui donna un petit registre à cet usage. Sally, ou plutôt Sarah, car elle entrait dans l'âge où les jeunes personnes cessent d'être appelées par le diminutif de leur nom, Sarah, dis-je, étant la meilleure ou même la seule amie de sa sœur, doit aussi être sa confidente intime et la dépositaire de ses plus secrets sentiments. Cependant, Sarah ne lui demandera ni lettre à chaque courrier, ni le détail de la personne et du caractère de toutes les nouvelles connaissances qu'elle doit faire, ni la relation de tout ce qu'elle doit voir et entendre à Bath. Elle se bornera à la prier de lui donner quelquefois de ses nouvelles. Toutes les choses, enfin, relatives à cet important voyage seront, de la part des Morland, simplement et sérieusement disposées. L'émotion causée par cette première séparation sera touchante, mais sans éclat déchirant. M. Morland, au moment du départ de sa fille, ne lui donnera pas un crédit illimité sur son banquier, il ne lui mettra pas dans la main en la lui serrant avec expression quelques 100 livres sterling en billets de banque ou en or, il lui donnera simplement 10 guinées en lui recommandant de les ménager, ajoutant toutefois que, si elles étaient insuffisantes, il lui en enverrait d'autres. Tels furent en effet les auspices sous lesquels le voyage commença. Il se fit doucement, tranquillement et sans aucun accident. Les voyageurs ne fussent assaillis ni par des orages ni par des voleurs. Ils n'eurent d'autre inquiétude que celle que Mistress Allen éprouva pendant une demi-journée, croyant avoir oublié dans une auberge sa pelisse, qui, heureusement, se trouva le soir dans un des coffres de la voiture. En approchant de Bath, Catherine était ravie. Elle regardait avec avidité tout ce qui s'offrait à sa vue. Elle admirait la beauté des campagnes qui entourent ce lieu, entrait dans la ville, les bâtiments qui étaient sur son passage, les rues même qu'elle traversait, tout enfin était l'objet de son admiration et de son enchantement. On prit un logement convenable dans Pulteney Street. Avant d'aller plus loin, nous croyons devoir donner sur Mistress Allen quelques détails nécessaires pour que nos lecteurs fassent connaissance avec elle et jugent comment à l'avenir, si cela arrive, elle aura occasionné les malheurs qui viendront probablement assaillir notre héroïne. Malheur causé soit par imprudence, soit par ignorance, soit par jalousie, soit en interceptant des lettres, soit en ruinant la réputation de celle qu'elle aura reçue dans sa maison, soit enfin en l'expulsant, tous événements indispensables. Mistress Allen était de ces femmes qui ne peuvent jamais faire naître d'autres sentiments que celui de l'étonnement qu'il se soit trouvé dans le monde un homme capable de l'aimer assez pour l'épouser. Elle manquait de beauté, d'agrément et d'esprit. Son air était assez doux et extrêmement calme. Elle avait de l'indolence dans les manières, de la puérilité dans la conversation. Tels étaient les charmes qui avaient entraîné M. Allen, qui, cependant, ne manquait ni de bon sens ni de tact. Sous certains rapports, elle était excellente pour introduire une jeune personne dans le monde. Elle aimait à tout voir, elle aimait à être vue. La parure était sa passion, elle en parlait sans cesse. 4 jours passés avec elle suffirent à Catherine pour être parfaitement instruite de ce qui concernait les modes, de l'attention qu'il fallait apporter au choix d'un chapeau, à la forme d'une robe, enfin pour faire l'acquisition de tous ces objets de parure. Ainsi, elles se trouvèrent disposées à faire leur entrée dans le grand salon de l'établissement de Bath. Catherine se para. Sa toilette fut examinée dans le plus grand détail par Mistress Allen et par sa femme de chambre. Elles la trouvèrent parfaite. Ce jugement pouvait faire espérer à Catherine de ne pas être l'objet de la critique. Quant aux éloges, elle était trop simple pour en rechercher, et si elle trouvait quelquefois du plaisir à les recevoir, elle ne cherchait jamais à les exciter. Mistress Allen prit plus de temps à sa parure et prit beaucoup de précautions pour se rendre ridicule. Elle se procura en outre l'avantage d'arriver fort tard au salon, l'agrément d'être pressée, d'être foulée en tous sens par la nombreuse et bruyante société qui était rassemblée depuis plusieurs heures. Quant à M. Allen, il sut se glisser jusqu'à la salle de jeu et laissa ses dames se tirer d'affaire. Que de soins ne fallut-il pas alors pour pénétrer ? Mistress devait diriger sa pupille. Plus encore, ne fallait-il pas préserver une robe neuve du danger imminent d'être froissée ? Rompre un groupe d'hommes qui obstruaient la porte n'était que le premier de leurs travaux. Catherine se tenait pressée près de sa conductrice, elle avait pris son bras, elle n'osait le quitter au milieu des flots ondoyants de la multitude, et arrivait enfin dans la première pièce de l'établissement, mais bien pour y rencontrer un encombrement plus considérable, et non ces délices qu'elle espérait goûter. Elle s'était figurée trouver une place commode, elle croyait jouir du plaisir de voir danser, et ce n'était qu'avec des peines inouïes qu'elle devait arriver jusqu'à l'extrémité de la salle, qu'elle devait y trouver un simple banc, surnommé banquette, placé sur un lieu élevé, d'où elle pourrait apprécier la difficulté vaincue d'un passage hardi effectué au milieu d'une foule toujours croissante, et jouir du plaisir d'être vue, comme elle aurait celui de voir. Arrivée à cette banquette, Catherine pensa qu'elle était au bal. Elle put distinguer quelques masses de danseurs et sentit elle-même le désir de se mêler aux quadrilles. Mais nouvel inconvénient. Entre 1000 cavaliers, aucun ne se présentait pour être son partenaire. Mistress Allen lui disait dans cette circonstance « Oh, ma chère, que je voudrais vous voir danser !» Là se bornait son pouvoir et le même souhait se répétait à chaque nouvelle danse avec tant de monotonie et si peu d'effet que Catherine, ennuyée d'entendre toujours la même chose, dut d'autre parti à prendre que celui de cesser d'écouter et de répondre. Il ne lui était pas donné de pouvoir jouir longtemps sur cette banquette, si laborieusement conquise, d'une tranquillité parfaite. L'heure de prendre le thé vient d'arriver. Un mouvement nouveau s'annonce et porte vers une autre salle toute l'assemblée. Nos dames sont encore une fois pressées de toutes parts. Elles sont portées plutôt qu'elles ne marchent. Les peines confiées deviennent plus douces. Mais là, pas un voisin, pas un ami avec lequel on puisse s'entretenir des souffrances que l'on endure dans cette réunion de plaisir. Changement continuel de voisin équivaut à un délaissement complet. Quelle contenance garderont-elles dans la salle du thé ? Leur isolement est complet. M. Allen ne revient pas. Elles n'ont pas une personne, pas un seul gentleman qui vienne leur offrir ses soins. Que faire ? Où se mettre ? il faut se résoudre, après avoir longtemps regardé de tous côtés, à prendre les places qui restent au bout d'une longue table déjà occupée. Elles étaient bien embarrassées de leur personne et ne savaient que dire. Mistress Allen, prenant enfin la parole, se félicita beaucoup d'avoir préservé sa robe de tous les accidents dont elle avait été menacée depuis leur arrivée.
« Il serait très fâcheux qu'elle eût été déchirée, n'est-il pas vrai ? »
dit-elle.
« Cette mousseline est si fine ! Je puis vous assurer que je n'en ai pas vu de semblable dans toute la salle !»« Combien il est désagréable !»
murmurait à demi-voix Catherine, « de n'avoir pas une seule connaissance !»«
Oui, ma chère !» répondait Mistress Allen de l'air le plus calme. « Très désagréable, en effet !»
À la manière dont ces dames nous regardent, je crains que nous ayons commis une inconvenance en venant nous asseoir à leur table, ou qu'elles ne pensent que nous voulons indiscrètement nous mêler à leur société.
Je suis vraiment fort embarrassée. Que n'avons-nous ici quelques amis?
Si nous en apercevions, nous irions bien vite les joindre.
Assurément, ma chère. Les Skinner étaient ici l'année dernière. Je voudrais les y voir aujourd'hui.
Ne ferions-nous pas mieux, Mistress, de nous retirer? Vous voyez que nous ne pouvons prendre ici ni thé ni autre chose, n'ayant personne pour nous en présenter.
Cela est vrai et bien fâcheux. Cependant, en considérant la foule qu'il nous faudrait traverser, je crois qu'il vaut mieux rester où nous sommes. Mais, ma chère, jetez un coup d'œil sur ma coiffure. J'ai été tellement pressée que je crains qu'elle ne soit dérangée.
Elle ne l'est nullement. Est-il donc possible, chère Mistress Allen, que dans cette nombreuse assemblée vous ne connaissiez personne? J'ai peine à me le persuader.
Je vous assure cependant que cela est.
Voyez donc quelle singulière femme! Que sa robe est affreuse et antique! Examinez sa tournure. Après un temps assez long, un de leurs voisins leur offrit enfin une tasse de thé. Elles l'acceptèrent avec reconnaissance. Cette occasion leur permit d'échanger quelques mots de conversation, et ce fut la seule qu'elles eurent dans toute la soirée avec des étrangers. M. Allen vint enfin les rejoindre.
« Eh bien, Miss Morland, lui dit-il, j'espère que vous trouvez le bal agréable et que vous vous amusez bien. »«
Bien, en vérité,
répondit-elle en s'efforçant d'arrêter un long bâillement.
J'aurais désiré, dit Mistress Allen, qu'elle eût un cavalier. Je voudrais que les Skinner fussent venus ici cette année plutôt que l'année dernière. Si les Paris eussent mieux exécuté le projet qu'ils avaient formé, elle aurait pu danser avec George Paris.
Cela ira mieux une autre fois, dit Monsieur Allen.
Quand le bal recommença, une partie de la compagnie quitta l'assemblée. On fut plus à l'aise, on put se promener autour de la salle. Ce moment était favorable à une jeune personne qui n'avait encore été pour rien dans aucun des événements de la soirée. Alors, elle devait être vue, remarquée, admirée. Miss Morland se trouva, en effet, dans le cas d'être aperçue par plusieurs jeunes gens, mais il n'y en eut pas qui s'arrêtèrent pour la considérer, il n'y en eut pas qui parurent éblouis de ses charmes, on n'en vit pas courir dans toutes les salles, demandant à tout le monde le nom de cette ravissante inconnue, personne ne s'écria qu'elle était une divinité. Catherine, pourtant, n'était pas mal, et si ces mêmes personnes l'eussent vue 3 ans auparavant, elles eussent trouvé par comparaison que maintenant elle était charmante. Une fois, et une fois seulement, elle entendit 2 gentlemen qui disaient près d'elle « Cette jeune personne est assez jolie ». Ce peu de paroles dut produire son effet sur elle, lui rendre dès ce moment la soirée agréable, satisfaire sa modeste vanité. Elle dut se tenir plus obligée à ces 2 jeunes gens pour ces simples mots qu'une beauté de roman ou romanesque ne l'eût été à un adorateur pour 10 pages de vers composées en son honneur et capables de faire connaître au monde entier le pouvoir de ses charmes. Elle dut probablement arriver à ce résultat de quitter le bal contente d'elle-même et satisfaite de toute l'assemblée.